Géopolitique. Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, merci d'écouter Géopolitique, émission, je le rappelle, à retrouver également en podcast. Rising Lion, le lion qui se lève, voilà comment Israël a baptisé son opération en Iran. L'État hébreu a lancé une offensive dans la nuit de ce vendredi 13 juin en frappant une centaine de cibles militaires et nucléaires iraniennes. Plusieurs hauts gradés des forces iraniennes ont aussi été tués. Israël justifie cette attaque en assurant disposer de renseignements prouvant que Téhéran s'approchait du point de non-retour vers la bombe atomique. L'Iran dénonce une déclaration de guerre, promet une riposte sans limite et a déjà lancé plusieurs salves de missiles contre Israël. La communauté internationale, elle, appelle à la désescalade. Cette offensive intervient au moment où Téhéran avait entamé avec Washington des négociations sur un accord sur le nucléaire. Mais les cartes sont désormais rebattues. On va donc analyser la situation entre l'Iran et Israël, les conséquences pour la région. Et puis le rôle du reste du monde avec nos invités. Azda Kian, professeur franco-iranienne de sociologie à l'université Paris-Cité. Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient. Et puis Nicolas Falaise, journaliste au service international de RFI, notamment ancien correspondant à Jérusalem. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous donc, pour ce Géopolitique. Alors les tensions, elles n'existent pas seulement depuis ces derniers jours hein, entre Tel Aviv et Téhéran, ça fait des années déjà que c'est compliqué. Pourquoi, David Rigoulet-Rose, pour commencer, pourquoi Israël a décidé de passer à l'acte maintenant, selon vous ?
Alors, du point de vue des stratèges israéliens, ils considéraient qu'il y avait ce qu'on appelle, entre guillemets, une fenêtre d'opportunité qui était susceptible de se refermer à brève échéance, et fenêtre d'opportunité qui était le résultat de, on va dire, la désintégration d'abord de l'axe de la Mukawama, de la dite résistance à Israël, c'est-à-dire de tous ces mandataires régionaux qui constituaient une projection géopolitique, justement, du régime iranien sur la autour de l'État hébreu. Et puis, il y avait une autre opportunité qui était le résultat des frappes effectuées notamment en octobre dernier, les deuxièmes frappes israéliennes qui avaient annihilé l'essentiel du système de défense anti-aérien, notamment les S-300 russes. Donc il y avait une ouverture objective de l'espace iranien qui rendait possible une opération militaire à grande échelle, qui est préparée de très longue date et dont les modalités opérationnelles manifestement remontent à plusieurs mois. Et c'est le moment qui a été choisi, effectivement, par rapport à un timing sur lequel on pourra revenir, mais qui était jugé de toute façon le plus adapté à la situation, au but recherché.
Ça intervient aussi juste après une résolution de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui disait hein, justement, qui dénonçait le non-respect par l'Iran de ses obligations nucléaires. Bon, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que ça a aussi son importance ?
Alors, c'est pas ça qui a déclenché, mais c'est pas anecdotique dans le timing immédiat. C'est-à-dire que ça pouvait arranger Israël d'attendre d'avoir la publication de ce rapport, qui était accablant, effectivement, pour le programme iranien nucléaire, parce que à ce moment-là, ça limitait les critiques éventuelles d'une opération qui est menée aujourd'hui, en disant qu'il y avait une légitimité à la mettre en œuvre, compte tenu justement de la base juridique apportée par le rapport de l'AIEA. Mais c'est pas ça qui a déclenché l'opération, qui de toute façon, dont la préparation remonte à bien plus longtemps.
Benjamin, Haute-Couverture.
Oui, deux compléments là-dessus. Les rapports dont vous venez de parler, c'est un rapport du 30 mai et un rapport du 2 juin. Et suite à la publication de ces deux rapports, qui sont des rapports trimestriels réguliers hein, de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, les Américains, et ce qu'on appelle le E3, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont œuvré pour que le Conseil des gouverneurs, qui devait se retrouver à partir du 9 juin, adopte une résolution condamnant les manquements et le manque de respect de l'Iran à l'égard de la résolution 2231, à l'égard de son accord généralisé de garantie avec l'AIEA. Et par conséquent, cette résolution dont on parle, c'est une résolution du Conseil des gouverneurs qui a été adoptée le 12 juin et de manière, je dirais, effectivement coïncidente, le soir même commencent les frappes dans la nuit même. Donc on peut penser en effet que tout était prêt et que le timing, si vous voulez, c'est un petit peu comme le 6 juin 44, si vous voulez, ça devait être le 5, puis ça a été le 6, vous voyez. Puis là, tac, le 12 arrive cette résolution, c'est le bon moment. Israël, d'une certaine manière, a les mains un petit peu plus libres encore dans cette fenêtre d'opportunité, disons, mensuelle ou annuelle dont on a parlé. Et rentre dans la brèche.
Malgré tout, c'est vrai que vous l'avez mentionné, hein, David Rigoulet-Rose, cette opération, elle n'a pas été fabriquée comme ça en quelques jours. Hein, Nicolas Fallais, c'est une opération d'ampleur qui demande, on l'imagine, du temps de préparation.
Oui, alors les plans existent depuis des années, hein, c'est une certitude. On peut rappeler qu'en empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, c'est un point fixe. Certains diront une obsession de Benjamin Netanyahou, hein, une ligne rouge pour le Premier ministre israélien. C'est aussi, et ça remonte à avant Benjamin Netanyahou, un point fixe dans la doctrine israélienne, dont on peut se souvenir que c'est déjà par des bombardements qu'Israël avait tué dans l'œuf les embryons de programmes nucléaires de l'Irak au début des années 80, et puis une installation secrète en Syrie dans les années 2000. La fenêtre d'opportunité, elle vient d'être parfaitement décrite. Hein. Il faut se souvenir que au début de cette année 2025, lorsqu'on a constaté l'effondrement de l'axe de la résistance des alliés de l'Iran dans la région, l'une des hypothèses qui était formulée à ce moment-là, c'était est-ce que des faucons à Washington, au moment du retour au pouvoir de Donald Trump, ou en Israël, allaient profiter de cet affaiblissement historique de l'Iran dans la région pour pousser cette carte, jouer cette carte-là encore plus fort, plus loin, et frapper les installations nucléaires de l'Iran. Depuis hier, on a la réponse.
Azadekian, c'est vrai que cette volonté quand même de s'attaquer à l'Iran, elle remonte pas d'hier, notamment de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qu'on a fait quand même son combat depuis quasiment toujours.
Tout à fait, moi je me rappelle, il y a déjà de nombreuses années de ça, peut-être plusieurs décennies de ça, où on entend dire que l'Iran est très proche de la fabrication d'une bombe atomique. Dans 6 mois, ils l'auront, dans 1 an, ils l'auront, etc. Donc, effectivement, après, si vous regardez, il y a eu une série aussi d'interventions techniques, technologiques de la part des Israéliens pour, effectivement, saboter le programme nucléaire de l'Iran. Il y a eu aussi le sabotage d'un certain nombre de sites nucléaires de l'Iran, bien sûr pas les bombardements, mais des sabotages qui ont retardé effectivement ou qui visaient à retarder le programme nucléaire de l'Iran. Donc effectivement, il faut dire que c'était un objectif de la part du gouvernement israélien, pas seulement Netanyahou d'ailleurs. Alors moi, ma question, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore la naturelle du programme nucléaire de l'Iran. Est-ce que c'est un programme nucléaire civil ou c'est militaire? Est-ce que les Iraniens ne sont pas en train d'utiliser ou n'étaient pas en train d'utiliser l'enrichissement de l'uranium à 67% à des fins comme un levier dans leurs négociations? Ou est-ce que réellement ils voulaient aller vers la fabrication d'une bombe? On sait qu'au sein de l'establishment iranien, il y avait des durs, et il y a des durs, dont plusieurs ont été tués d'ailleurs suite aux frappes israéliennes qui voulaient aller vers une bombe atomique, et d'autres qui...
Et Israël dit qu'ils en étaient très proches, en tout cas.
Absolument. Enfin, et d'autres qui ne sont pas d'accord et n'étaient pas d'accord. Donc, je pense que la décision n'avait pas encore réellement été prise au niveau politico-militaire pour aller vers la fabrication d'une bombe atomique.
Benjamin, haute couverture, déjà peut-être donc pour revenir sur les frappes depuis ces dernières heures, à l'heure où on se parle pour le moment... Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait un peu plus précisément ce qui a été visé, l'importance de ce qui a été visé par les frappes israéliennes?
Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je vais essayer de vous répondre tout de même. Mais je reviens un tout petit peu sur ce qu'on disait avant. Deux mots. Premièrement, sur ce que vous disiez, l'obsession, Nicolas Fallais parlait de l'obsession de Netanyahou. J'ajoute, et je rejoins Azadeh là-dessus, attention, ce n'est pas l'obsession d'un gouvernement. C'est une obsession historique israélienne depuis la fin des années 90. Moi, je me rappelle très bien à Tel Aviv, il y a 20 ans, on me disait « Ne t'inquiète pas, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. » Donc, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité, quelle que soit l'alternance, c'est une menace existentielle pour Israël. Par conséquent, aucun gouvernement israélien, Netanyahou ou d'autres, n'acceptera jamais que l'Iran ait l'arme nucléaire. En revanche, ce qu'on peut se demander, c'est si, au fil des années, l'acceptation politico-sociale israélienne d'un seuil qu'atteint ou qu'atteindrait l'Iran n'a pas peu à peu baissé. C'est-à-dire, ou plutôt monté. C'est-à-dire qu'on accepterait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on était incapable d'accepter il y a 20 ans. Moi, je fais partie de ceux qui sont assez surpris que finalement, cette attaque de contre-prolifération armée qui illustre une nouvelle fois, comme vous le disiez tout à l'heure, la doctrine Begin de 1981, n'arrive que maintenant. C'est assez tard. Et si elle arrive maintenant, et là je me permets de peut-être contredire un petit peu ce que vous venez de dire, Azadeh, c'est que, certes, le pouvoir politique, à l'évidence, a décidé de ne pas décider depuis au moins une vingtaine d'années, et n'a toujours pas décidé, mais ça ne les a pas empêchés, ce faisant, de continuer à développer leur programme de telle sorte qu'aujourd'hui, en effectivement, et là je me fie à des calculs arithmétiques sur lesquels je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce serait trop long à expliquer, aujourd'hui, effectivement, en quelques semaines, l'Iran aurait la matière fissile pour se doter de 9 à 10 charges nucléaires. Quand on parle de charges nucléaires, on n'a pas parlé d'engins nucléaires explosifs. Attention. Mais ensuite, il faudrait certainement au moins un an ou deux ans pour se doter d'une arme elle-même. Mais en effet, pour les Israéliens, il est impossible qu'en quelques semaines, un pays aussi adverse que l'Iran puisse se doter de 9 charges nucléaires constituées. Voilà. Et donc, de toute façon, cette réaction qui a eu lieu là dans la nuit du 12 et 13 et qui va continuer était implacable.
Et pour le moment, donc Benjamin Haute-Couverture, si on continue avec vous, pour le moment, ces frappes, qu'est-ce qu'elles ont apporté et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Est-ce que vraiment elles peuvent remettre en cause le plan nucléaire iranien?
Non. Alors, d'abord, je suis comme vous. Je ne suis pas dans les secrets du renseignement et de ce que les militaires israéliens savent. Par conséquent, je ne sais pas. Donc, pour pouvoir tirer des conclusions opératives, il va falloir attendre quelques jours pour voir l'ampleur des dommages grâce aux images satellitaires dont on disposera. On sait que Natanz a été touché. On sait qu'une installation près d'Isfahan a été touchée par Chine, etc. Il y en a d'autres. Le réacteur à Lourdes d'Arak, etc., qui pour le moment n'est pas mis en service, mais qui doit être remis en service en 2026. Au total, il y a certainement un certain nombre d'autres installations. Il y en a beaucoup en Iran sur le programme nucléaire. Boucher, naturellement, en revanche, n'a pas du tout été touché. Mais ça n'intéresse pas les Israéliens parce que c'est uniquement du nucléaire civil. C'est un réacteur de puissance. Mais on ne le sait pas encore tout à fait. Et pour le reste, on sait que nombre d'installations sont clandestines et que parmi ces installations clandestines, nombre d'entre elles sont souterraines. C'est notamment le cas de l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo et pour ce qui est des centres de conversion de l'uranium, c'est-à-dire de convertir l'uranium et en faire un uranium de qualité militaire. Et là, on ne sait pas dans quelle mesure ça a été touché. Mais ce que l'on sait, c'est que non, il est aujourd'hui impossible de réduire à néant et de revenir au balbutiement du programme tel qu'il était dans les années 1990, ne serait-ce que parce qu'il y a eu des générations d'ingénieurs qui ont été formés et qui travaillent et que par conséquent le savoir et le savoir-faire iranien sont là. Et ils le sont de manière, je dirais, presque définitive, sauf à attendre la mort de tous ces gens dans 40 ou 50 ans. Donc oui, non, le programme nucléaire iranien n'est pas mort par l'opération « Un peuple se lève comme un lion ».
Et donc, la question qui se pose à Azadeh Kian notamment, et qui revient beaucoup, c'est de savoir si ces premières attaques israéliennes, finalement, ne vont pas entre guillemets, pousser l'Iran à aller plus loin et plus vite dans ce programme.
Alors justement, il y a plusieurs conséquences de ces attaques. L'une d'elles est effectivement d'encourager peut-être les militaires iraniens d'aller vers la fabrication d'une bombe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Moi, je maintiens ce que je disais. Je pense qu'ils souhaitaient de parvenir au seuil du nucléaire, et ce depuis de nombreuses années, un savoir-faire pour pouvoir franchir le pas un jour. Et aujourd'hui, avec les frappes israéliennes, je pense qu'ils sont en train de décider. Et puis, l'assassinat de nombreux décideurs et militaires d'Oran, de peut-être franchir ce pas. Donc, c'est l'une des conséquences éventuelles. Moi non plus, je n'en sais rien. C'est ce qu'on raconte, c'est vraiment hypothétique. Deuxième conséquence qui me concerne particulièrement et directement, c'est que la société civile iranienne qui était en train de monter en puissance et avait eu des acquis est aujourd'hui très, très fragilisée. Donc, en fait, ça veut dire que la société iranienne est prise en étau entre les frappes israéliennes et un régime qui est répressif. Et on sait qu'aujourd'hui même, il y a eu des arrestations en Iran même de plusieurs personnes taxées par le régime d'être des espions d'Israël. Et tous ceux et toutes celles qui revendiquent la liberté, la démocratie, etc., vont être taxés de soutien à Israël et vont être emprisonnés. Et c'est ça aussi l'une des conséquences pour la société iranienne de ces attaques. Autre chose, c'est qu'il y a une pénurie actuellement. Vous savez qu'on ne trouve plus de pain à Téhéran. Ça, première conséquence. Alors, les installations gazières de South Pars, au sud, donc, a été touchée aussi aujourd'hui par des frappes israéliennes. Et voyez bien que ça va avoir énormément de conséquences sur cette société iranienne que Netanyahou prétend vouloir sauver. Du régime.
Tout à fait, il s'est adressé directement à cette absolument. Population iranienne, en perçant même.
En perçant même, enfin, oui, mais vous savez, au début, si vous voulez, moi je sais qu'au début, par exemple, c'était vendredi matin, après des frappes, quand les Iraniens ont appris que Salami, le commandant en chef des gardiens de la Révolution, Bareilly, etc., tout ça, ce sont des, vraiment, hauts gradés ont été tués, les gens, c'est-à-dire la majorité des personnes, étaient très contents de s'être débarrassés de ces ultras qui, n'oublions pas, ont joué un rôle prépondérant dans le massacre des opposants et aussi de mouvements Femmes, Vie, Liberté. Ensuite, quand les gens, petit à petit, ont su que non, les quartiers résidentiels aussi ont été frappés et qu'il y a aujourd'hui au moins 80 personnes civiles tuées, femmes et enfants aussi, et plus de 400 blessés. Et moi, j'ai vu aussi des images. L'opinion publique iranienne commence à changer. C'est-à-dire qu'on n'applaudit plus. Et petit à petit, lorsque on en parlait juste avant l'émission, si Israël continue à attaquer aussi, attaque du coup les installations pétrolières demain, là, l'opinion publique iranienne va changer. Voilà, parce que les gens vont voir que les conséquences sont directes sur leur propre vie, sachant qu'ils sont contre la guerre. Mais également contre cette façon justement du régime iranien aussi d'aborder la chose. Vous savez par exemple pourquoi enrichir l'uranium à tout prix en Iran même ? Benjamin l'a dit, il y a une seule centrale nucléaire à Bouchehr au sud de l'Iran qui est gérée par les Russes. En réalité, ce sont les Russes qui fournissent l'uranium enrichi nécessaire à l'Iran. Le réacteur d'Arak, rien du tout. Je veux dire, ça ne fonctionne même pas. Le réacteur de Téhéran non plus. Et les autres réacteurs ne sont pas là réellement à des fins civiles ou pour produire de l'électricité. Donc, pourquoi s'acharner à vouloir à tout prix enrichir de l'uranium et jusqu'à la destruction du pays, l'imposition des sanctions internationales et j'en passe et d'autres. Donc voilà, on en est là en termes de conséquences de ces frappes d'une part et des décisions du régime islamique d'autre part.
Et on va peut-être réévoquer plus tard les conséquences sur cette société iranienne, mais je voudrais quand même dire, je l'ai mentionné au début, cette offensive, elle intervient en plein pourparler entre les États-Unis et Téhéran sur un éventuel accord sur le nucléaire. David Rigoles-Rose, d'ailleurs, un nouveau cycle de négociations était prévu demain. Bon, Donald Trump avait laissé la porte ouverte, mais effectivement, il s'est peut-être un peu fourvoyé. Ça veut tout cela, c'est terminé, en tout cas à court terme.
Ah là oui, de toute façon, c'est une hypothèque très très lourde sur un nouveau cycle de négociations, parce que de toute façon, les dés étaient un peu pipés en réalité à la base, c'est le problème. Alors il y avait de la part de l'administration américaine, notamment de Donald Trump, il y avait le souhait certainement d'éviter une option militaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il aime pas les logiques militaires, c'est pas bon pour le business, le pétrole est en train de monter. Et donc il avait initié un processus effectivement avec un certain flou sur les lignes rouges au début d'ailleurs, ça a posé un problème par la suite hein, sur le fait du démantèlement ou pas du droit à l'enrichissement. Et puis au fur et à mesure, quatrième, cinquième cycle, il s'est rendu compte qu'il y avait un raidissement de la position iranienne, sur, en tout cas une intransigeance sur cette ligne rouge, c'est-à-dire la volonté de maintenir l'enrichissement in situ en Iran et de ne pas démanteler, même s'il y avait des concessions sur le niveau d'enrichissement, éventuellement sur le transfert d'une partie à 60%, etc. Et donc là, on arrivait au moment de vérité. Et il a considéré, juste avant l'opération militaire israélienne, que de toute façon, le sixième cycle ne donnerait rien à Mascate, malgré la main tendue de son point de vue, et que donc mécaniquement on en revenait à l'option qu'il aurait souhaité éviter, à l'option militaire qu'il a sous-traité à Israël en réalité. Mmh. Et donc Israël finalement c'est conforme aux attentes que l'État hébreu avait, qui était de le convaincre qu'il n'y avait pas la possibilité de finaliser un accord. Et donc, il laisse la porte ouverte hein, en disant que c'est le principe de la diplomatie par la force, c'est-à-dire que c'est un exercice grandeur nature, en disant aux Iraniens, voyez, vous avez refusé la main tendue, les conséquences sont celles que vous voyez aujourd'hui, elles pourraient être encore pires. Et effectivement, elles pourraient, dans la mesure où les Iraniens sont susceptibles de viser, et ils l'ont dit, de viser les bases américaines qu'il a en partie évacuées, enfin, en tout cas le personnel non nécessaire, et puis de bloquer le détroit d'Ormuz, et puis beaucoup de choses. Donc ça veut dire le pétrole, l'économie mondiale, et là on rentre dans un engrenage potentiel qui est difficile à maîtriser.
Benjamin, haute couverture, vous voulez réagir ?
Oui, un facteur d'explication technique pour compléter ce que vient de dire David, qui est important et auquel on ne pense pas quand on ne met pas la tête dans les rapports de l'AIEA. Les Iraniens, on l'a dit tout à l'heure, ont augmenté leur production d'enrichissement d'uranium enrichi à 60% d'isotope de 235 depuis quelques années, à un niveau qui fait qu'aujourd'hui, les stocks constatés par l'AIEA sont importants. Il y a 400 kilos d'uranium hautement enrichi à 60%, dont on pourrait tirer après conversion environ 230 kilos d'uranium hautement enrichi de qualité militaire. Non pas de qualité arme, hein, c'est-à-dire plus de 90%, mais disons de qualité militaire au-dessous de 75%. Bref, pour faire cela, ils ont besoin d'utiliser leur stock d'uranium à 20%. Ces stocks d'uranium à 20%, de manière mathématique, si vous voulez, diminuent, alors que les stocks d'uranium à 60% augmentent. Et par conséquent, la réaction extrêmement brutale des Iraniens après le vote de la résolution du 12 juin a été de dire « si c'est comme ça, nous allons continuer l'enrichissement et nous allons accroître notre enrichissement. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont besoin. Pourquoi ? Parce que leur stock d'uranium enrichi à 20% baisse. Et on peut estimer que dans quelques mois, ils n'en auront plus. Par conséquent, ils ne pourront plus enrichir à 60%. Or, ils ont besoin d'augmenter leur uranium enrichi à 60% pour constituer potentiellement des charges nucléaires. Donc il faut qu'ils reprennent l'enrichissement de 20 à 60%, et donc ça arrive, disons, au bon moment, et ils arguent du cycle de négociation et de l'impossibilité qu'il leur serait faite d'enrichir à plus de 3,5, et ils arguent de la résolution du Conseil les condamnant pour dire « si c'est comme ça, nous retirons et nous enrichissons davantage ». C'est un besoin technico-opérationnel qu'ont formulé les ingénieurs et les militaires iraniens.
Très adéquat.
Bon, on est d'accord, mais je veux dire, ça, c'est juste une partie de la vérité. L'autre partie, c'est que, visiblement, pendant les négociations, d'abord, Witkoff, vous savez, l'envoyé de Trump, avait accepté dans un premier, lors du premier round des négociations, l'enrichissement de l'uranium à 3,5. Puis Netanyahou s'est dit contre. Donc, il est revenu en disant non, zéro. Ok, zéro enrichissement. Ensuite, les Iraniens ont dit effectivement, l'uranium enrichi en Iran, ben, on peut l'envoyer à un pays tiers. Ça, on peut décider ensemble vers quel pays on va envoyer ce volume d'enrichissement d'uranium enrichi. Tout ça était objet de discussion entre les deux pays. En contrepartie, la levée des sanctions états-uniennes a des effets extraterritoriaux. On en était là. Attends, pardon. Non. mais je veux dire, ce sont les Américains qui n'ont pas accepté. Je pense que le régime islamique d'Iran, qui est, comme vous le savez, très contesté par sa population, très affaibli déjà, aussi du fait des sanctions internationales, la situation économique du pays, même avant les frappes israéliennes, était désastreuse, avait besoin, pour se maintenir au pouvoir, non pas pour l'amour des Iraniens, mais pour maintenir au pouvoir, la levée des sanctions. Et pour ça, ils ont accepté de négocier directement avec les États-Unis, sauf que les Américains n'ont pas accepté ni la levée des sanctions américaines, tout ce que les Iraniens ont proposé ont été rejetés par les États-Unis. Donc il faut voir l'autre versant aussi. Donc de ce fait, on en est arrivé là. C'est pas que la faute du régime. Moi, je pense personnellement que l'Iran n'a pas besoin d'enrichir l'uranium en Iran même. Mais bon, après, ils ont investi des centaines de milliards de dollars. Et en plus de ça, ils sont signataires du traité de non-prolifération nucléaire. Mais donc, doit avoir le droit à l'enrichissement de l'uranium jusqu'à 3,5. Pardon. Et je dois dire, il y a le droit international respecté. Aujourd'hui, personne ne respecte le droit international. De quel droit est-ce qu'Israël frappe l'Iran? De quel droit? Est-ce que c'est le droit international? Est-ce que la frappe préventive existe dans le droit international? Non. Est-ce qu'un pays démocratique comme la France ne doit pas au moins soutenir le droit international, protéger le droit international, au lieu de dire Israël a le droit de se défendre? Certes, mais ce n'est pas Iran qui a attaqué Israël, c'est Israël qui a attaqué l'Iran.
On va revenir effectivement sur les réactions, notamment de la France, mais moi je voudrais revenir sur un mot, David Rigouleros, que vous avez employé. Les États-Unis ont sous-traité ces opérations à Israël, mais ça veut dire qu'ils ont du mal pour l'instant à sortir de cette position quand même de non-intervention militaire, en tout cas. C'est quelque chose qui ne serait pas vraiment accepté dans une partie de la société américaine.
Bah, c'est-à-dire que Trump s'est toujours présenté comme le président qui arrêtait les guerres, qui ne les commençait pas. Donc déjà, il y a dans sa posture, c'est évidemment, il y a une forme de malaise. Et en même temps, il a dit l'Iran n'aurait jamais la bombe. Donc là, on perçoit la contradiction à gérer au vu de la situation. Mais tout en ne rejetant pas l'option militaire. Hein. Il a toujours dit depuis le début qu'elle n'était pas rejetée, qu'elle n'était pas hypothéquée de manière définitive. Quand je dis sous-traitée, c'est parce que ça l'arrange, d'une certaine manière, de ne pas avoir à intervenir directement et notamment d'exposer les personnels américains, les troupes. Il faut rappeler qu'il y a une demi-douzaine de bases très importantes sur le Golfe. Hein. Je ne parle même pas de l'ambassade américaine qui a été en partie évacuée à Bagdad, mais au Koweït, il y a la 5e flotte qui est à Bahreïn, il y a l'USNCOM qui est au Qatar, il y a une base aux Émirats. Donc, évidemment, il y a une exposition des personnels américains qui est problématique, puisque en termes d'opinion publique pour les États-Unis, c'est fondamental. Et donc, il voudrait éviter. Il ne va peut-être pas pouvoir le faire, parce que les Iraniens ont dit qu'ils allaient viser, justement. Et pour les Iraniens, il n'y a pas de dissociation. Cette subtilité entre une position plus distanciée, etc., pour le régime iranien, il y a le grand Satan, les États-Unis, le petit Satan. Et les deux sont quand même très liés dans la matrice représentative que par rapport au régime iranien. Et donc aujourd'hui, effectivement, Donald Trump voudrait se maintenir en dehors, mais il n'est pas sûr qu'il y parvienne, parce que là le processus s'est lancé et mécaniquement il sait qu'il est obligé de soutenir l'État hébreu si l'État hébreu est menacé vraiment existentiellement parlant, et donc il est un peu piégé par la situation, alors même qu'il regarde beaucoup, beaucoup plus vers l'Asie, évidemment, l'Asie Pacifique.
Nicolas Falaise.
Oui, il y a un mot intéressant prononcé par Benjamin Netanyahou quelques minutes avant que nous rentrions en studio pour l'émission. Le Premier ministre israélien a revendiqué le soutien manifeste, c'est son terme, de Donald Trump. Alors le fait que ce soit le Premier ministre israélien lui-même qui doive revendiquer et qualifier ce soutien de Washington pose évidemment question sur la nature de ce soutien tel que David Rigoulet-Rose vient de nous le dire.
Géopolitique sur RFI.
La suite de ces géopolitiques consacrées au conflit entre l'Iran et Israël. Nous sommes toujours avec Azadeh Kian, Benjamin Haute Couverture, David Rigoulet-Rose et Nicolas Falaise. Qu'est-ce qui pourrait donc arrêter l'Iran dans ce plan nucléaire? Vous l'aviez dit un petit peu, Azadeh Kian, il semble un peu, malgré les difficultés notamment économiques, malgré les problèmes rencontrés par la société, on a la sensation, il y a certains qui disent, voilà, à un moment donné, ils vont devoir choisir entre la survie, on va dire, de l'État et le programme nucléaire. Le choix est déjà fait ou un peu tôt pour
non,
le dire peut-être.
Non, enfin, on n'en est pas encore là, mais écoutez, de toute façon, je reviens à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire que le site de Fordou, qui est très problématique, et Natanz, les deux, n'ont pas encore été réellement atteints, visiblement, parce que les Israéliens ont besoin d'une bombe dont possèdent seulement les États-Unis, à ma connaissance, mais Benjamin me corrigera, et l'Israël n'a pas encore cette bombe. Donc, ce qui veut dire que ces deux sites n'ont pas encore été réellement atteints, et je dirais fort heureusement, parce que cela veut dire des dégâts, mais alors incommensurables, des conséquences désastreuses aussi pour la population. Si vous voyez où se trouve quand même près de Rome et près de d'Ispahan et près d'eux, etc. Donc ces sites ne sont pas très éloignés des grandes villes iraniennes. Donc pour l'instant, bien sûr, dans l'état actuel des choses, ils ne vont pas renoncer à l'enrichissement de le nucléaire, c'est évident. Le jour où ils seront bombardés, peut-être, mais on n'en est pas pour l'instant encore là. Et l'une des conséquences, comme je le disais, c'est au contraire, vont peut-être dire, bah, puisque c'est comme ça, on va continuer à aller vers peut-être la fabrication, de quoi fabriquer une bombe. Mais là, franchement, je ne sais pas. Ce que je voudrais dire, si vous permettez, c'est que moi, il me semble que Donald Trump s'est fait piéger vraiment par Netanyahou. C'était pas quelque chose de près peut-être programmé. D'ailleurs, Rubio, le ministre américain des Affaires étrangères, l'a dit clairement, c'est pas notre affaire, c'est pas nous, on va continuer les négociations, etc. D'une part. D'autre part, on sait qu'au sein du Parti républicain, les voix se lèvent. C'est pas seulement l'opinion publique américaine, c'est les gens, plusieurs personnes, personnalités très importantes, des soutiens de Donald Trump, qui sont en train de lui dire non, on veut pas une guerre contre l'Iran, on veut pas une guerre tout court, et donc attention à ce que vous faites. Après, les Iraniens sont susceptibles, effectivement, si jamais leurs installations pétrolières, gazières sont réellement attaquées, ils ont menacé de fermer le détroit d'Ormuz et n'ont pas attaqué les soldats américains. Je ne sais pas d'où vient cette information, parce qu'il y a des personnes de deuxième rang, de ce qu'on rend, qui l'ont dit, mais pas l'establishment. Ils ont dit on va se défendre, on va fermer le détroit d'Ormuz, etc. Parce que c'est suicidaire s'ils attaquent les Américains.
C'est le ministre de la Défense qui l'a dit.
C'est secondaire. C'est pas le président et c'est pas Khamenei. Donc non, tout ça, ce sont ce que j'appellerais des personnalités secondaires. Oui.
En tout cas, David Rigoulet-Rose, il y a des hauts gradés iraniens qui ont été tués, certes déjà remplacés. Ça peut avoir une incidence dans la suite des événements?
Ça désorganise la structure, incontestablement. Il y a le modèle, en fait, dupliqué sur ce qui s'est passé au Liban, de décapitation.
J'allais y venir. Est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe avec une attaque du Hezbollah, où c'est quand même assez différent?
Non, toute chose égale par ailleurs, le modèle de décapitation de la structure politico-militaire, puisque les passes d'Aran sont quand même liées au régime, c'est pas uniquement, c'est pas l'armée régulière, bon, ressemble à ce qui a été fait contre le Hezbollah, à l'exception près que le guide n'est pas pour l'instant touché comme Nasrallah a été éliminé. Pour autant, c'est pas tout à fait comparable, parce que le Hezbollah, c'est une organisation au sein d'un État, c'est pas l'État lui-même. Alors que là, c'est l'État, la structure de l'État qui est visée, donc il y a une rupture de nature. Pas seulement degré, mais nature. Mais ça renvoie assez largement, en réalité, à une doctrine qui a été formalisée par Naftali Bennett avant le retour de Benjamin Netanyahou, qui s'appelle la doctrine Octopus. Elle a été formulée de manière très, très officielle dans une interview de The Economist de juin 2022, où il dit que, justement, dans cette stratégie, l'équation, Israël avait décidé de changer l'équation et de taper la tête de la pieuvre, sous-entendu l'Iran même. Nous ne jouons plus, je cite, nous ne jouons plus uniquement avec les tentacules, avec les mandataires. Nous avons créé une nouvelle équation, justement, en visant directement la tête. Ça a été fait au Liban, d'une certaine manière. C'était une phase, on va dire, expérimentale, entre guillemets. Et là, manifestement, vous évoquez tous les commandants qui sont visés les uns après les autres, à l'exception du guide, qui est le sommet de la structure. C'est le même modèle qui est dupliqué, parce que on voit bien qu'il n'y a pas uniquement les sites qui sont visés, mais aussi, il s'agit de désintégrer la structure, en fait, du régime. Qui tient le pays. Alors même s'ils sont remplacés, effectivement, il y a quand même une désorganisation de fond qui est faite. Et on n'a pas encore l'évaluation des attendus que ça peut induire, mais ils seront certainement importants.
Pour le moment, les forces armées iraniennes ont assuré qu'elles n'auront pas de limites dans leur réponse à Israël. Benjamin de Couverture, est-ce qu'il y a tout de même des limites matérielles? De quels moyens dispose l'Iran pour attaquer Israël? On a vu lancement de missiles hier, mais...
Oui, enfin, ce qu'on voit, c'est d'une manière assez brutale et très révélatrice, c'est qu'en réalité, les moyens dont dispose l'Iran sont très limités. Une aviation quasi inexistante, des défenses anti-aérienne qui n'existe plus, un arsenal balistique qui, pour partie, reste cloué au sol ou n'atteint pas ses cibles, des drones qui, eux-mêmes, en grande partie, sont interceptés. Mon Dieu, l'Iran n'a plus beaucoup de moyens, et quand Israël dit que maintenant le terrain est libre et qu'ils peuvent y aller, c'est parce qu'ils ont, engagé toutes les cibles qui pouvaient mettre éventuellement à mal leurs actions offensives, mais il n'y en avait pas tant que ça. Donc, sur ce plan-là, je crois que l'Iran a fait montre d'une volonté de puissance et de développement de capacités balistiques de courte, moyenne, portée intermédiaire, éventuellement longue portée un jour, etc. Et on se rend bien compte que il n'y a pas grand-chose sur le terrain face à une armée aussi moderne et aussi complète que l'est l'armée israélienne. Donc non, là en fait, c'est la preuve par le terrain.
Je vous vois acquiescer effectivement sur ce qui vient d'être dit. Et j'ajouterais, est-ce que donc l'Iran peut s'appuyer sur des puissances étrangères aujourd'hui? On pense à la Chine, à la Russie, là aussi.
Oh non, alors là, c'était évident. C'est évident.
Non, mais voilà, il n'y a plus de Hezbollah, il n'y a plus de régime de Bachar al-Assad.
Proxy n'existe plus. Le Bachar n'existe plus. La Russie et la Chine, d'ailleurs, il suffit de voir un peu leur réaction par rapport aux frappes israéliennes. C'est très timide. Aujourd'hui encore, ils se parlent au téléphone, etc. Mais non, il n'y a pas de soutien réel. Non, les Iraniens sont seuls. Et pour la première fois, ils sont vraiment seuls. Ils ne peuvent plus compter ni sur le Hezbollah, ni même sur le Houthi de Yémen, etc. Donc ils sont devant, le mur, quoi. Ils sont dos au mur, je dirais. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de rester en place. Ils vont penser à leur survie et donc ils vont faire tout ce qu'il faut pour ça. Alors, ils ont encore néanmoins des missiles balistiques. Hein, ils ont encore des missiles balistiques. Enfin, aussi, il y a quand même aussi, ils ont réparé un certain nombre de missiles qui avaient été frappés précédemment par Israël, etc. Mais bien sûr, l'armée israélienne, c'est l'armée la plus puissante au Moyen-Orient et l'une des plus puissantes au monde, et alimentée à la fois par les États-Unis et probablement probablement par la France aussi, d'ailleurs, entre autres. L'Iran, personne n'est de l'Iran. Donc, effectivement, ils sont dans une situation très, très difficile, le régime. Et donc, il faut se méfier des régimes comme le régime islamique d'Iran, qui est très différente quand même de, par exemple, le régime de Saddam Hussein, voire le régime de Bachar, parce que c'est un régime qui a été institutionnalisé. C'est-à-dire que finalement, on a vu Salami, le commandant des gardiens de la révolution, a été éliminé, mais ça n'a pas empêché les gardiens de tirer des missiles balistiques le lendemain ou le surlendemain. Donc, vous voyez, c'est ainsi que fonctionnent aussi d'autres institutions de ce régime. En cela, c'est très différent et ça aide à rester en vie malgré tout.
Benjamin Haute-Couverture.
Oui, très rapidement, un scénario aussi qui devient de plus en plus probable et dont on n'a pas parlé, mais dont je voulais parler tout à l'heure, c'est naturellement la sortie par l'Iran du TNP. Dans un scénario qui ressemble un petit peu au scénario à la nord-coréenne de janvier 2003, c'est-à-dire que l'Iran se saisit de circonstances exceptionnelles qui pèsent sur sa sécurité nationale pour invoquer l'article 10 du traité de non-prolifération nucléaire, dont ils sont partis comme état non doté, en sortir, mettre dehors définitivement tous les inspecteurs de l'AIEA et se lancer dans l'aboutissement de leur programme nucléaire militaire.
Un mot, David Rigouleros, sur aussi les pays du Golfe, leur réaction pour le moment.
Très prudente, parce qu'ils sont... Alors, on peut noter d'ailleurs qu'il y a des déclarations saoudiennes qui condamnent l'attaque au motif que, voilà, mais c'est aussi parce qu'ils se savent exposés, notamment avec la présence de
balles. Ça fait quelques années déjà qu'ils essaient
entre l'Arabie Saoudite et, par intérêt bien compris, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, il n'y a pas de manifestation très spectaculaire parce qu'il y a une prudence inquiète, on va dire, de tous ces pays qui se trouvent au sens propre du terme aux premières loges potentiellement d'une réplique. Et d'ailleurs, certains officiels iraniens, notamment des Pasdaran, ont dit qu'ils seraient visés. Donc on voit bien qu'il y a un malaise justement sur le niveau de risque qui pourrait les exposer. Et puis de la part justement de ces pays, il y a en même temps une satisfaction contenue sur l'affaiblissement durable du régime iranien, justement, qui est perçu objectivement comme la principale menace régionale par tous ces pays, en plus d'Israël, en commun avec Israël. Donc on voit bien que c'est très, très ambivalent, évidemment, parce que c'est l'Orient compliqué, mais c'est très ambivalent, effectivement, et ça laisse beaucoup de points d'interrogation sur la suite des événements, parce que le régime, manifestement, vous évoquiez tout à l'heure, ça peut être un coup fatal, cette opération. Avec toutes les...
C'est-à-dire, coup fatal.
Il peut y avoir, et d'ailleurs implicitement, dans aujourd'hui la logique implicite de l'opération, c'est un changement de régime de la part des Israéliens. En considérant justement par rapport au nucléaire, que seule la fin du régime pourrait geler très durablement un programme à vocation militaire. Et que sans ça, ça ne serait pas possible. Justement. Et donc, c'était pas forcément l'option de Donald Trump, mais finalement, c'est ce qui semble se dessiner avec toutes les incertitudes. Parce que si un régime comme ça s'effondre, et comme il n'y a pas une alternative d'une opposition structurée, même si la population majoritairement le déteste, mais il n'y a pas d'opposition structurée, les forces centrifuges peuvent se libérer avec une équation à plusieurs inconnues, notamment par rapport aux minorités iraniennes. Et là, on rentre dans une zone en zone inconnue.
Mais sur le plan strictement nucléaire, j'ajoute juste que c'est une logique qui se tient.
La fin d'un régime, ou en tout cas l'affaiblissement de l'Iran, est-ce que c'est quelque chose que les Européens peuvent vouloir aussi, David Rigouleros? Ils ont réagi hier quand même en soutenant le droit à se défendre d'Israël, alors que par exemple, si on prend le président français Emmanuel Macron, ses relations elles étaient quand même très tendues avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ces derniers temps.
Elles le sont toujours d'ailleurs.
Et la France a encouragé aussi quand même pendant des années la voie diplomatique, on va dire, par rapport à l'Iran. Comment est-ce qu'on peut expliquer
Oui, mais sur le nucléaire, et je reviens justement au déficit de soutien de l'Iran, quand on parlait du soutien éventuel de la Russie et de la Chine, les deux pays en question n'ont pas envie que l'Iran ait la bombe. C'est ça, en réalité. Ils ne le disent pas parce qu'ils instrumentalisent les Iraniens par rapport à l'Occident, dans le défi par rapport, posé en, par rapport à l'Occident. Mais en réalité, aucun pays n'a envie que l'Iran la bombe. Et surtout pas au niveau régional, parce qu'il y aura un risque avéré de prolifération, l'Arabie saoudite, la Turquie, etc. Et la question de la pérennité du TNP, justement, qui serait hypothéquée. Et donc, ça explique la position des Européens qui sont là-dessus très, très fermes. Et d'ailleurs, se profiler le snapback, c'est-à-dire le rétablissement des sanctions internationales, justement, par les Européens, parce que c'est pas les Américains qui sont sortis du JCPOA qui pouvaient les mettre, c'est pas les Russes et les Chinois qui le mettraient. Donc, il reste deux pays au Conseil, la Grande-Bretagne et la France. Et comme par hasard, c'est les deux pays qui étaient dans la ligne de mire de l'Iran, justement, par rapport à cette potentialité de rétablissement du snapback. Il faut signaler que le contentieux avec Paris est d'autant plus fort, et là on retrouve la question de la diplomatie des otages, que le snapback est un mécanisme inséré à la demande des Français dans l'accord de 2015.
Et d'ailleurs, je crois qu'Emmanuel Macron a encore demandé aujourd'hui la libération de Cécile Kohler en Iran.
Pardon. Faut pas oublier Monsieur Paris.
Oui, bien évidemment. Azadekian, est-ce que ce qui se passe là, donc ça peut d'une certaine façon remettre sur le devant de la scène Benjamin Netanyahou, en tout cas, voilà, on sentait qu'il était un peu largement en difficulté concernant la guerre à Gaza, pardon. Là, on a la sensation que ça redore, entre guillemets, un petit peu son image.
Tout à fait. Moi, je pense que les frappes
sur le plan international
et le timing de ces frappes poursuit plusieurs objectifs. Bah, l'une de c'est effectivement Netanyahou qui quand même était contesté par une partie de la population israélienne du fait de sa politique de criminel, je dirais.
Mais les Israéliens, est-ce qu'ils soutiennent d'ailleurs ces attaques?
Aujourd'hui, on entend dire que effectivement la majorité écrasante des Israéliens qui contestaient Netanyahou auparavant, aujourd'hui soutiennent les frappes contre les installations nucléaires de l'Iran parce qu'ils pensent qu'ils étaient visés par l'industrie nucléaire du pays. En même temps, les frappes iraniennes ont fait oublier, sont en train de faire oublier Gaza. Or, encore aujourd'hui, 35 Palestiniens ont été tués par les tirs israéliens. Voilà, il y a ça. Il y a aussi torpiller négociations Iran-États-Unis. Donc, pour l'instant, il y a au moins, pour moi, trois objectifs de Netanyahou. Et bien sûr, son maintien au pouvoir qui, pour l'instant, fonctionne. Sauf que, à terme, je ne le pense pas. À terme, je pense que Israël, on le voit après Gaza et peut-être aussi après l'Iran, compte tenu des destructions en cours, peut perdre le capital de sympathie que les Israéliens avaient, en tout cas dans les pays occidentaux.
David Rigoulet-Rose, quel est l'objectif final d'Israël? C'est quoi? C'est avoir une zone tampon sécurisée ou est-ce que ça, c'est un objectif qui, de toute façon, ne fonctionnera jamais?
L'objectif avant le 7 octobre, c'était quand même de finaliser le processus d'Abraham avec la normalisation avec l'Arabie saoudite, ce qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Ça ne veut pas dire que c'est condamné définitivement, mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de perspective sur la problématique palestinienne, ça va être très très compliqué pour Riyad d'accepter une normalisation. Alors aujourd'hui, toutes les cartes sont rebattues parce que évidemment, avec ce qui se passe en Iran, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a une tectonique des plaques qui est en train de jouer, l'ajustement de ces plaques n'est pas encore définitivement fait, mais incontestablement, il y a l'idée. Alors pour ce qui est de la question nucléaire, c'est une obsession qui est on va dire transpartisane en Israël. C'est la doctrine bénigne depuis 81, donc aux Irak en 81, ensuite Deir ez-Zor en 2007 en Syrie. Et donc l'Iran, le problème de l'Iran, c'est la dissémination des sites qui sont très nombreux. Et donc on rentre dans une configuration beaucoup, beaucoup plus compliquée, et d'où l'idée éventuellement du changement de régime, qui serait l'option de substitution à l'impossibilité technique de détruire les sites en profondeur. Voilà. Donc, mais avec des attendus très, très incertains quand même, que j'évoquais, en cas d'effondrement brutal du régime.
Et donc, on va voir effectivement comment la situation va évoluer hein, d'heure en heure déjà. Merci à tous les quatre pour votre analyse. Azadeh Kian, professeur franco-iranienne de sociologie à l'Université Paris-Cité. Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. David Rigouleros, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient. Et puis Nicolas Falaise, journaliste au service international de RFI. Merci à Benoît Goutorbe qui était à la réalisation ce soir. L'actualité se poursuit avec RFI Soir et un journal qui arrive dans un instant.